Vous écoutez, on lit pour vous.
Au-delà des chiffres, l'humain. Un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 20 septembre 2025 dans la presse. Place Émilie Gamelin, pendant qu'un sondage comptabilisait l'inconfort des commerçants, notre équipe distribuait de la naloxone qui a sauvé des vies. Depuis des mois, les manchettes se répètent comme un disque rayé. Le centre-ville est en déclin, les commerces ferment, les tours à bureaux se vident. Les rapports s'accumulent, les sondages se suivent, les chiffres s'additionnent, et soyons honnêtes, ils ne mentent pas. Oui, le centre-ville de Montréal traverse une tempête. Mais réduire cette réalité à des pourcentages ou à des sondages express, c'est comme juger un match de hockey en ne regardant que le tableau d'affichage. La vraie histoire, elle se joue sur la glace, sur le terrain. À l'Itinéraire, notre expérience ne se résume pas à quelques jours de sondage. Elle s'écrit en années de présence, en milliers d'heures passées dans les rues, en dizaines de milliers de contacts avec des citoyens, des camelots, des commerçants, des personnes en situation de vulnérabilité. Nous voyons le centre-ville sous toutes ses coutures. Et ce que nous avons appris, c'est qu'il n'y a pas deux côtés à la médaille, mais bien trois. Le premier côté, les chiffres. Il est indéniable. Les taux d'occupation chutent, les commerces ferment, certaines emblèmes disparaissent après 30, 40 ou 50 ans. Le télétravail continue de vider les tours et les restaurants peinent à tenir. Les données doivent être prises au sérieux car elles reflètent des pertes bien réelles. Le deuxième côté, le réflexe du bouc émissaire. Quand une ville va mal, le réflexe est de chercher un coupable. Et trop souvent, ce sont les mêmes qu'on désigne. L'itinérance, les tentes, les visages des personnes les plus vulnérables. Comme si cacher la pauvreté sous le tapis allait ramener les travailleurs dans les bureaux et les clients dans les restaurants. On déplace des campements comme on déplace du mobilier urbain. On ouvre des haltes chaleurs, mais seulement 4 mois, comme si la détresse sociale gelait l'hiver et disparaissait l'été. Ce réflexe-là, c'est du maquillage. Ça rassure à court terme, mais ça ne règle rien. Le troisième côté, celui qu'on vit. Et c'est là que notre voix compte. Nos équipes EMC, équipes de médiation et de cohabitation, ont réalisé plus de 4000 contacts et 780 interventions en 18 semaines depuis mai de cette année. Ça veut dire des centaines de bouteilles d'eau distribuées sous la canicule, plus de 40 vies sauvées par une fiole de naloxone, des plaies pansées sur un banc, des conflits désamorcés avant qu'ils ne dégénèrent, 227 personnes suivies. Ça veut dire des citoyens qui s'arrêtent chaque jour pour dire « merci ». Des commerçants qui offrent des dons de nourriture ou de vêtements. Des gens qui nous confient que notre simple présence fait respirer le quartier. Voilà ce qu'on ne trouve pas dans les tableaux Excel. La confiance qui se bâtit, les liens qui se tissent, l'humanité qui circule encore au centre-ville. Ce troisième côté de la médaille, c'est celui qui montre que Montréal n'est pas seulement en déclin, mais encore vivante, résiliente, inventive. L'innovation existe déjà. On dit qu'il faut innover pour sauver le centre-ville, mais l'innovation est déjà là. À l'Itinéraire et ailleurs. Des projets concrets qui créent des emplois, qui redonnent de la dignité à travers un magazine, des cafés sociaux, la maison ronde et des équipes de médiation qui bâtissent des liens et qui sortent des gens de la rue pour rendre Montréal plus humaine. Ce que ça veut dire pour Montréal. Alors oui, il faut écouter les rapports économiques, oui. Il faut se soucier des commerces, des bureaux, des travailleurs. Mais il faut aussi regarder au-delà des deux côtés classiques de la médaille. Le troisième côté, celui de l'humain, est peut-être le plus déterminant. Le centre-ville ne se relèvera pas seulement avec des baisses de taxes ou des campagnes de pub. Il se relèvera si l'on investit dans ce qui fait une ville vivante, des gens, des lieux, des liens. Montréal n'a pas besoin d'un maquillage cosmétique. Elle a besoin d'une vision courageuse qui reconnaît que l'humain n'est pas une dépense, mais un investissement. Alors, aux décideurs, je lance cet appel. Arrêtons les pansements temporaires. Osons bâtir un centre-ville où l'on investit autant dans l'humain que dans le béton. Parce qu'au fond, un centre-ville, ce n'est pas un taux d'occupation. C'est une communauté. Et ça, on sait comment la bâtir. C'était, au-delà des chiffres, l'humain, un texte de Luc Desjardins de l'Itinéraire, paru le 20 septembre 2025 dans La Presse.
Le lieu de résidence n'est pas ce qui influence le plus le bonheur des aînés. Un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir. Les préjugés dont sont victimes les personnes âgées sont un obstacle majeur à leur épanouissement, d'autant plus que l'âgisme qu'ils subissent est également internalisé, soulève deux nouvelles études sur le vieillissement. On y apprend aussi, contrairement à la croyance populaire, que le lieu de résidence n'est pas le facteur le plus déterminant quant au bonheur des aînés. L'âgisme est sans doute la forme de discrimination qui est la plus tolérée au Canada et ça va influencer directement le bonheur des aînés et leur participation sociale, mentionne Mélanie Levasseur, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Elle a mené une étude qui a comparé le bonheur de près de 1000 Québécois autonomes âgés de 75 à 100 ans. La seconde étude dont il est question a été menée par la professeure Martine Lagacé de la Faculté des arts de l'Université d'Ottawa, en collaboration avec 4 universités canadiennes. Cette série d'études longitudinales a interrogé plus de 3000 Canadiens âgés de 70 ans et plus. Un mythe souvent véhiculé est que les personnes âgées veulent absolument vivre à domicile et qu'il n'y a aucune ouverture à la vie en résidence. Or, les résultats de l'étude de Mme Levasseur indiquent que le niveau de bonheur est similaire indépendamment si les aînés vivent en banlieue ou en ville, en domicile conventionnel ou en résidence privée. Leur bonheur est principalement influencé par l'épanouissement, c'est-à-dire le sentiment d'être entendu et de se réaliser. Cette étude démontre bien, justement, que l'on peut être heureux, peu importe le milieu de vie. Que ce n'est pas les mêmes facteurs aussi qui influencent le bonheur si on est à domicile versus en résidence pour personnes aînées, commente la professeure Levasseur. En effet, en RPA, il y a plus de possibilités de socialisation, ce qui contribue de façon importante au bonheur des personnes âgées, alors qu'en domicile conventionnel, l'intégration dans la communauté importe davantage. On entend souvent que les personnes âgées veulent rester chez elles le plus longtemps possible et certains types de résidences, comme les CHSLD, ont mauvaise presse, en particulier depuis la pandémie de COVID-19. Bien que l'échantillon de l'étude de l'Université de Sherbrooke ne comprenne pas de personnes vivant en CHSLD, Mme Levasseur est d'accord pour dire que dans l'esprit des Québécois et des Canadiens vieillissants, il y a une dichotomie entre le domicile conventionnel et tous les autres types de résidences. Plusieurs mettent dans le même panier les RPA et les CHSLD, et c'est là qu'il faut faire attention à apporter des nuances. Il n'y a pas une seule personne aînée, il n'y a pas un seul profil, il n'y a pas un seul milieu de vie non plus, souligne-t-elle. Il faut par ailleurs impliquer la personne aînée dans le processus décisionnel de changer de milieu de vie, car cela va faire une grande différence pour elle par rapport à si ce sont d'autres personnes qui prennent la décision à sa place. L'âgisme fait se sentir plus vieux. Les deux études qui donnent la parole aux personnes âgées, qui ont été financées par la Fondation Luc Maurice, démontrent que l'âgisme affecte négativement les aînés, jusque dans leur perception d'eux-mêmes. Cela réduit leur bonheur et leur qualité de vie. L'étude canadienne visait à mesurer non seulement à quel point les aînés sentaient qu'ils étaient l'objet de préjugés, par exemple être trop vieux pour apprendre, ne pas être une personne productive, mais aussi s'ils étaient d'accord avec ces préjugés. Ce que le modèle montre, c'est que plus je crois que je suis l'objet de préjugés, plus je donne une vérité à ces préjugés, plus ça me fait sentir vieux. Donc, même si j'ai 75 ans, si je suis d'accord avec ces trucs agistes-là, je me sens entre 80-85 ans. Et le fait de se sentir plus vieux que son âge a aussi un effet négatif sur la satisfaction de vie, puis sur leur réseau social, explique Madame Lagacé. En même temps, les résultats préliminaires de la première phase de l'enquête longitudinale montrent qu'en général, les hommes comme les femmes se sentent presque 15 ans plus jeunes que leur âge réel. Autre fait saillant, l'âge moyen où l'on perçoit une personne comme étant une personne âgée est de 72 ans, alors qu'il était 60 ans dans les années 50. Les aînés sondés dans l'étude se sont fait demander quel âge ils ressentaient avoir. Tout le monde s'est rajeuni d'une dizaine d'années, souligne Madame Lagacé. C'est la bonne nouvelle parce que ça vient dire finalement que les aînés, même si on essaie de leur imposer des préjugés, ils luttent contre ça, dit-elle. Ceux qui étaient d'accord avec les préjugés agistes, eux, ça les faisait vieillir. Quand on tient compte de l'effet de l'agisme, c'est comme si l'agisme venait contrecarrer l'effet positif de se sentir plus jeune. Ce n'est pas super nouveau, cette démonstration. Mais ça vient encore une fois cogner sur le clou de l'importance de lutter contre les effets extrêmement coûteux de l'agisme pour la santé des aînés, pour comment ils se sentent au niveau de leur capacité de participer socialement, leur satisfaction de vie. Une formation dans le cours de culture de citoyenneté québécoise ? Mesdames Levasseur et Lagacé ont toutes les deux fait valoir l'importance d'inclure les aînés dans les décisions qui les concernent, notamment au niveau politique, et d'aller au-delà de simples consultations. C'est extrêmement important si on veut qu'ils regagnent une certaine valeur en lien avec leur rôle dans la société, soutient Madame Levasseur. C'est au cœur de ces deux études, renchérit Madame Lagacé. L'idée, c'était d'être avec les aînés, de leur donner une voix, parce que souvent, on le sait, on va parler pour eux et ils ne seront pas impliqués finalement. Une autre recommandation importante pour les chercheuses est de développer des formations pour contrer l'agisme et de les offrir dans le cursus scolaire des élèves, par exemple dans le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoise. D'autres formations pour contrer l'agisme devraient aussi s'adresser aux professionnels de la santé qui gravitent autour des personnes âgées. C'était « Le lieu de résidence n'est pas ce qui influence le plus le bonheur des aînés », un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 17 septembre 2025 dans Le Devoir.
Claudine Metcalf, un monument de la communauté LGBTQ+. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 18 septembre 2025 dans le magazine Fugue. Je ne reviendrai pas sur la pièce Corps fantôme, ses auteurs et ses metteurs en scène. Mon collègue Denis Daniel Boulay l'a très bien fait. Mais revenons au rôle de Claudine Metcalf, joué sur scène par la talentueuse Charlie Monti. Claudine Metcalf, un monument de la communauté LGBTQ+, comme on dit aujourd'hui. Féministe, lesbienne, journaliste et militante de la première heure, elle a contribué à la mise sur pied de plusieurs organisations, dont Dire enfin la violence, qui a d'ailleurs inspiré en partie les auteurs et autrices de la pièce. Les luttes ont évolué, ce n'est plus la même chose, mais la lutte pour les droits a donné des résultats que l'on voit aujourd'hui et dont les jeunes générations peuvent bénéficier, dit d'entrée de jeu Claudine Metcalf. Celle-ci a milité dans de nombreuses associations, dont le projet Dire enfin la violence. Le contexte des années 1990 en est un de lutte pour les droits, de descente policière, de meurtres en série d'hommes gays, 17 pour être exact, en seulement 3 ou 4 ans. Le tout doublé du sida qui faisait des ravages à l'époque. Les hommes tombaient comme des mouches, décimant toute une partie de la communauté. Il faut bien comprendre, ces hommes mouraient rejetés par leur famille alors que leurs conjoints n'avaient aucun droit ni recours. Non, les conjoints de fait n'existaient pas et le mariage non plus. Le combat allait porter fruit plusieurs années plus tard grâce aux changements de loi, de mentalité et aux décisions des tribunaux. Mais sommes-nous à l'abri des reculs? Il suffit de regarder ce qui se passe au sud de la frontière pour s'en rendre compte. J'ai rencontré Charlie Monti. Elle est très sympathique, celle qui m'incarne dans Corps fantôme. Je lui ai parlé des soirées qu'il y avait au Lilith, un établissement pour lesbiennes. Cela m'a ramené à cette époque. C'était spécial de se remémorer ces moments-là, l'organisation d'événements de poésie féministe, etc., avoue-t-elle. Il y a des femmes et des lesbiennes dans la messe basse, la compagnie théâtrale. Je me demandais quelle serait la place des femmes et des lesbiennes dans une pièce qui parle beaucoup d'homosexualité masculine, de meurtre et du sida. Mais non, j'ai constaté que la place des femmes était bien là. Il y a beaucoup de poésie féminine dans cette pièce. Je ne voulais pas que la place des femmes soit diluée, parce qu'elle a été importante et qu'elle l'est encore, affirme-t-elle. Ici, c'est une belle façon de transmettre l'histoire, de la faire connaître aux jeunes générations pour qu'elles voient comment cela s'est passé. Ils ont rencontré Michael Hendricks, René Leboeuf, Roger Leclerc et Claude Poisson qui étaient là au début et qui les appuyaient. Ils ont fait leurs recherches, leurs lectures, leurs rencontres avec des gens qui ont vécu cette époque. Ils sont allés aux archives gays du Québec. C'est sérieux. Ils ont fouillé profondément pour dénicher des détails, explique Claudine Metcalfe, qui fut longtemps chroniqueuse et journaliste au magazine Fugue et Gazelle, celui-ci étant en quelque sorte la petite sœur du premier. Après tous ces meurtres et la police qui n'agissait pas malgré les différentes interventions, il a fallu attendre le meurtre du pasteur anglican Warren Elling et l'appel de Mgr Andrew Hutchison, l'archevêque anglican de Montréal, pour que la police bouge et entreprenne une véritable enquête sur ces meurtres. C'était vraiment une autre époque, ajoute-t-elle. On a vécu des choses terribles. Ta vie pouvait être détruite à cause d'une photo. Le journal Allo Police publiait les photos des gens arrêtés lors des descentes. Quelqu'un est venu nous voir en pleurs. C'était un ingénieur qui venait de perdre sa job. Mais comment pouvions-nous l'aider? À dire enfin la violence? S'interroge-t-elle. C'était quelque chose d'aller au parc Maisonneuve la nuit pour avertir les gars qui se trouvaient dans les bosquets que la police de la moralité pouvait débarquer n'importe quand. On les prévenait aussi que, non seulement ils risquaient de se faire arrêter par la police, mais aussi d'être battus par des bandes d'hommes hétéros, se rappelle Claudine Metcalfe. Pour les jeunes qui liront ce texte, il faut rappeler qu'il n'y avait pas d'application de rencontre, pas de cellulaire et qu'Internet en était à ses balbutiements. « Je me sens privilégié », souligne Claudine Metcalfe. « Le respect, là, bien sûr, c'est une construction théâtrale, mais il y a une histoire qui se vit dans ce contexte. » À certains moments, ils sont allés dans les détails, comme lors des soirées d'organisation chez Roger Leclerc, avec Michael Hendricks, René Leboeuf et Douglas Buckley-Couvrette. Parfois, les choses s'enflammaient et j'essayais de trouver un consensus. Bien entendu, c'est artistique, c'est flyé, mais c'est contemporain et ça illustre bien comment les choses se sont passées. Je pense que c'est une pièce qui permet aux jeunes d'apprendre et aux plus vieux de se souvenir. Elle nourrit aussi l'espoir chez les jeunes. Je voulais les encourager à persévérer malgré le temps écoulé entre le début de leur recherche et la mise en scène. Et le fait que le projet se réalise et que la pièce sera jouée au théâtre du CEP, ce n'est pas rien. Ils ont réussi à réunir des comédiens et des comédiennes capables d'incarner les figures de cette époque. Celui qui joue Michael est afro-québécois. C'est ancré dans notre époque, oui, mais amené avec beaucoup de crédibilité. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est important, conclut Claudine Metcalfe. Info, Corps fantôme, du 22 octobre au 22 novembre 2025 au Théâtre Jean Duceppe. C'était Claudine Metcalfe, un monument de la communauté LGBTQ+. Un texte d'André-Constantin Passiour paru le 18 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
La génération des boomers a profondément changé la société et continue de le faire. Un texte de Gérard Bouchard paru le 17 septembre 2025 dans La Conversation. La génération des baby-boomers a profondément changé la société et continue de le faire alors que les plus âgés d'entre eux deviennent octogénaires et les plus jeunes sexagénaires. Ce phénomène coïncide avec une accélération du vieillissement de la population au Québec, au Canada et dans l'ensemble des sociétés occidentales. À 81 ans, l'historien et sociologue Gérard Bouchard, professeur émérite à l'UQAC, s'identifie à la génération des boomers, même s'il la devance de quelques années. Comme tous les membres de ceux et celles que le professeur de littérature François Ricard a qualifiés de génération lyrique, il a été un participant enthousiaste de la Révolution tranquille, adoptant les nouvelles valeurs de liberté qui déferlaient sur l'Occident. Il est aussi l'un de ses intellectuels les plus en vue, auteur d'une trentaine d'ouvrages, récipiendaire de nombreux prix et distinctions, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs et co-directeur en 2007 de la commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles. Il y a élaboré son concept d'interculturalisme, une approche québécoise en matière d'intégration des nouveaux arrivants et des groupes minoritaires qui se différencie du multiculturalisme canadien. Gérard Bouchard a récemment publié un énième ouvrage qu'il considère comme l'un de ses plus importants, « Terre des humbles ». Le livre est sur mon établi depuis 50 ans, dit-il, lors de notre rencontre à son bureau de l'UQAC à Chicoutimi. Il s'agit d'une histoire des premiers habitants du Saguenay, celle des gens ordinaires, pas juste de ses dirigeants. Son prochain ouvrage portera quant à lui sur les boomers. Il traitera des différentes interprétations de la Révolution tranquille, de l'avant et de l'après-grande noirceur. Gérard Bouchard travaille 7 jours par semaine, un peu moins le dimanche, et ne comprend pas les gens qui prennent leur retraite à 55 ans alors qu'ils sont en pleine santé avec des enfants devenus adultes. Ils vont passer 40 années de leur vie à s'amuser? C'est absurde. Lui n'arrêtera jamais. Je suis un chercheur, c'est ma passion. Je suis incapable de penser que je pourrais arrêter. Je vais travailler jusqu'à la fin. La conversation Canada. Le baby boom qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a provoqué des secousses partout en Occident, dont au Québec. La société a dû s'ajuster à leur arrivée massive. Quels étaient les principaux défis au Québec? Gérard Bouchard. Sans aucun doute, la démocratisation de l'éducation. Les Canadiens français accusaient un important retard. La plupart des enfants quittaient l'école à partir de 12 et 13 ans. Or, les attentes vis-à-vis de l'instruction se sont faites plus importantes dès les années 50. Les parents des classes moyennes et pauvres voyaient bien que ceux qui avaient une belle vie, les notables, les avocats, les notaires et les médecins, étaient des gens instruits. L'idée que qui s'instruit s'enrichit a été formulée dans les années 60, mais elle était présente bien avant. Il fallait instruire cette génération. La conversation Canada. On a donc construit des écoles secondaires, le réseau des cégeps, celui des universités du Québec. Gérard Bouchard. Oui, car il y avait urgence, et pour cela, il fallait d'abord se défaire de l'autoritarisme considérable de l'Église, sa censure, sa guerre contre les intellos. L'Église s'opposait à l'instruction obligatoire jusqu'à 14 ans. L'arrivée du premier ministre Jean Lesage en 1960 a changé les choses. Lui-même n'était pas porteur du changement. Il était contre la nationalisation de l'électricité, la laïcisation, la création de la Caisse de dépôt. Il a fallu le convaincre. Ce qu'il a fait de mieux, c'est de s'entourer de gens très brillants et très intègres, note de la rédaction, notamment René Lévesque et Jacques Parizeau, qui ont créé un État moderne avec moins de corruption, d'arbitraire, d'amateurisme dans la manière de gouverner. Une bourgeoisie francophone a pris son essor. On a créé des entreprises, une classe de technocrates. C'était la Révolution tranquille. Elle s'est déployée dans les années 60, mais ses idées circulaient depuis quelques décennies, notamment avec l'intellectuel André Laurendeau, le plus important de sa génération. L'école est devenue obligatoire jusqu'à 16 ans et on a créé le tout nouveau réseau de l'Université du Québec avec ses 10 antennes. Il fallait des professeurs. On a embauché des gens qui n'avaient parfois que de simples maîtrises. On les formait, on payait leurs études et leurs salaires jusqu'au doctorat. On n'avait pas le choix. Il fallait pourvoir les postes pour former les cohortes qui venaient. Mais on s'est arrêté une fois les besoins remplis. Les générations suivantes ont donc frappé un mur. La conversation Canada. Quel a été l'impact de la Révolution tranquille sur cette génération devenue adulte? Gérard Bouchard. Les boomers n'ont pas fait la Révolution tranquille. Ils en ont bénéficié et ils ont participé activement et avec beaucoup d'enthousiasme à sa mise en place. J'avais 20 ans en 1963. À 25 ans, j'étais un militant, partisan des nouvelles valeurs de liberté, de l'indépendance du Québec. Cette génération a assimilé profondément ces nouvelles valeurs et en a fait les siennes. Les boomers sont donc associés à de grands changements sociaux, à l'émergence d'une société de consommation où le travail n'était plus l'absolu sanctifié, à un monde de liberté. La conversation Canada. Le party s'est terminé, cependant. Gérard Bouchard. Oui, dès 1973, l'Occident a connu le premier choc pétrolier, la fin de l'expansion économique, l'inflation. Les États étaient endettés. Les boomers n'en ont pas tant souffert. Ils étaient établis dans leur vie. Par ailleurs, avec la Révolution tranquille, le Québec s'est doté de vastes politiques sociales qui sont restées en vigueur. Mais l'idée qu'un bon diplôme équivalait à un bon emploi ne fonctionnait plus, ce qui a fait que la génération qui a suivi, les X, s'est sentie traitée injustement. La musique s'était arrêtée. Il n'y avait plus de chaises pour eux. Les X ont cherché des coupables et blâmé les boomers de s'être empiffrés, d'avoir été narcissiques. On comprend cette réaction émotive. Ils ont eu raison d'être fâchés. L'évolution de notre société leur a causé beaucoup de tort. Mais les boomers n'y étaient pour rien. La crise économique était à l'échelle de l'Occident. Il y a eu rupture dans la mobilité sociale. Cela dit, le Québec a su résister aux effets du néolibéralisme qui a déferlé à partir des années 80. Il n'a pas coupé dans ses politiques sociales. Le filet s'est même étendu. La conversation Canada. Les premiers boomers auront bientôt 80 ans et seront suivis par une vaste cohorte. Comment vivent-ils leur vieillesse? Gérard Bouchard. Ils ont de bons fonds de pension universels. Ils ont des moyens, dépensent, s'amusent, sont heureux, jusqu'à ce qu'ils soient malades. Et lorsque c'est le cas, l'État s'en occupe. À l'image de leur vie, leur couloir est tracé. Ils sont sur la voie de sortie et c'est une voie convenable qui est le propre d'une société civilisée. Évidemment, il y a des inégalités, notamment dans les fonds de pension individuels. Tous ne participent pas au même banquet. Mais la société leur permet de vivre une vie convenable. La manière dont on traite les personnes âgées, c'est quelque chose qu'on fait de bien. C'était « La génération des boomers a profondément changé la société et continue de le faire ». Un texte de Gérard Bouchard, paru le 17 septembre 2025 dans « La conversation ».